Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Vous le savez, c'est votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Très heureux d'être avec vous et n'hésitez pas à aller tout nous télécharger en podcast. Si vous avez manqué un débat, nous avons parlé de ces soupçons de trafic de la billetterie pour la Coupe du Monde de rugby en 2023 en France. On a également parlé de l'avenir de Zinedine Zidane. Voilà, vous pouvez aller nous réécouter avec grand plaisir. Alors dans quelques instants, le bras de fer des GG, un club doit-il rendre des comptes à ses supporters? Ce sera un 2 contre 2, 11h30, les GG, c'est mieux avant. Ah, Christophe est de retour, il n'était pas là la semaine dernière, le bonbon nostalgique. Aujourd'hui, mon cher Christophe, ce sera sûr.
On va parler du Vendée Globe 96, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces naufrages à répétition, de ces histoires incroyables, ces marins qui faisaient couler leur bateau, enfin qui coulaient avec leur bateau au large de l'Australie. Il y a eu quelques miracles et malheureusement, il y a eu aussi un mort.
En tout cas, on a très envie que tu nous contes de nouveau cette histoire et ces histoires. À chaque fois, forcément, qu'il y a un Vendée Globe, c'est aussi une aventure humaine absolument exceptionnelle, extraordinaire. Un petit tour par le ski, Adèle Bodden, le slalom, la première manche avec pas forcément de bonnes nouvelles pour nos Français, Arnaud Souk.
Un trio qui restera inchangé, en tout cas, Norvège, Suisse, Allemagne, Lucas Braten devant Loïc Meyer et Linus Strasser. Manuel Feller prend pour l'instant la quatrième place provisoire. Ça s'est pas bien passé pour les Français. Effectivement, Alexis Pinturo seulement 15e temps pour l'instant. A priori, ça devrait tout de même passer pour la qualif en deuxième manche. Il a 2 secondes 35 de retard. Ça sera beaucoup plus compliqué pour l'un des tout meilleurs slalomeurs de la planète, Henrik Kristoffersen, qui pointe en dernière position à 4 secondes et 12 centièmes. Et ça, il n'y aura tout simplement pas de seconde manche pour Clément Noël, donc le skieur de Val d'Isère, qui a enfourché, qui est sorti sur le bas de la chemise Barclay tout à l'heure, et donc qui ne verra pas pour la quatrième fois cette saison la deuxième manche d'un slalom de Coupe du Monde.
Merci Arnaud. La deuxième manche,
c'est à 13h30 et peut-être on suivra également les. Tout à l'heure, ils ont des gros dossards, donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour passer, mais on suivra les performances de Steven Amier côté français, de Paco Rassa et également de Léo Anguenot.
Merci Arnaud.
Petit
Souk.
Amier, le fils de Bastoun.
Exactement. Les artistes entrent dans l'arène. Les bonnes résolutions, visiblement, on repassera. En foot, à Lille et à Lyon, les supporters ne sont pas contents, le font savoir et attendent des réponses. En rugby, à Clermont, les supporters ne sont pas contents, le font savoir et attendent des réponses. Avant de débattre, avant de vous proposer ce bras de fer, on va revenir sur les faits. Évidemment, on retrouve notre journaliste RMC Sport, Maria Azé. Bonjour Maria.
Salut Lucie, salut tout le monde.
Salut Maria.
Alors certains salut, supporters salut. Ont donc réattaqué l'année 2023 plein badin.
Oui, plutôt de mauvaise humeur. Depuis une semaine, il y a déjà eu plusieurs cas d'embrouille avec les clubs. Ça a commencé dimanche dernier en rugby. Clermont s'est lourdement incliné à domicile face au Stade Toulousain. Les supporters n'ont pas aimé et l'ont fait comprendre. Il y a eu des sifflets dans tout le stade. Problème, en plus de ces sifflets, il y a aussi eu des insultes et des menaces. Des réactions que l'ASM condamne fermement dans un communiqué.
Comme vous, l'ensemble du club ne peut se satisfaire des prestations sportives de l'équipe. Ainsi, nous pouvons entendre vos reproches, votre déception, votre colère et même vos sifflets. Mais nous n'accepterons pas le déversement de haine et les insultes d'une très faible minorité de personnes que nous ne reconnaîtrons jamais comme des supporters.
Même son de cloche en football. Lundi, c'est à Lille que les sifflets ont retenti suite au match nul entre Lillois et Reims. Des sifflets qui n'ont pas vraiment plu à Paulo Fonseca, le coach des Dogs, qui a menacé de démissionner. Suite à ces déclarations, les supporters lui renvoient l'appareil en déclarant que ne pas accepter la critique, c'est problématique. C'est finalement le coach Lillois qui finit par calmer le jeu en conférence de presse vendredi.
Je ne veux pas botter en touche pour reprendre une expression du football. C'est vrai que j'étais très frustré à la fin du match, très mécontent de la situation. Je pense que c'est une réaction assez forte. J'ai réagi à chaud sur l'instant, sous le coup de l'émotion. Je ne veux pas créer de polémique, mais je suis sûr que dimanche, les supporters seront derrière nous pour nous encourager.
Il y a aussi des clubs qui préfèrent botter en touche. Justement, mercredi, les groupes de supporters de Lyon ont publié un communiqué fustigeant le club après leur défaite face à Clermont. Les joueurs en prennent pour leur grade un défilé de mecs suffisants, sans caractère, sans âme et qui se complaisent dans la médiocrité. Ils ont également placardé tout autour du Groupama Stadium des affiches avec le visage des joueurs lyonnais accompagné du slogan « Agissez ou partez ». pour l'instant. Pas de réponse du club. Les discords entre les clubs et leurs supporters, on ne les compte plus. On se rappelle des sifflets au parc à l'encontre de Neymar et Messi l'année dernière après l'élimination en Ligue des Champions. Certains préfèrent régler leur compte, d'autres laissent le temps passer. Au final, il n'existe qu'une seule recette pour régler ces conflits, la victoire.
Merci beaucoup Maria Azé pour ces précisions. Un club doit-il rendre des comptes à ses supporters? Dans le coin gauche, la team, mais bien sûr, les clubs ont des comptes à rendre. Christophe Cessieux, Simon Dutin.
Oui, mon Christophe, bien sûr.
Dans le coin droit.
Les pliés, les coachs.
La team Quenini, mais bien sûr que non, aucun compte à rendre. Marc Madio, Pascal Duprat. C'est parti pour Bras de Fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le Bras de Fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Ce Bras de Fer des GG, pour le moment, nous. Évidemment, nous vous avons invité à voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport.
Oui, on en est où, Jean-Christophe là? Les gens en pensent quoi?
Ah, pour l'instant, c'est sans appel. Hein. Pour 75% des auditeurs, eh bien, oui, ils ont des comptes à rendre. 25% non. Vous allez devoir cravacher, Pascal Duprat, Marc Madio. Pourquoi les clubs n'ont pas de comptes à rendre à leurs supporters? Vous commencez, évidemment, cette coutume, vous êtes derrière Pascal Duprat, pourquoi non?
Bah, ça m'étonne qu'à moitié que Christophe et Simon, vous soyez d'accord avec ce principe où le supporter doit bientôt diriger, dire comment jouer, faire, comment faire, quel joueur recruter ou que sais-je encore. Non, mais pour moi, le supporter, il faut revenir au sens étymologique du mot, le supporter, il est là pour supporter. Il doit supporter quand son équipe gagne, bien entendu, mais il doit surtout supporter quand son équipe est en difficulté. Or, dès qu'une difficulté s'annonce dans les club de foot. Aujourd'hui, la mode, c'est de critiquer, bien sûr. Encore que, bon, les sifflets, on peut bien sûr les accepter, ça fait partie du jeu. Mais surtout, insulter, c'est surtout demander la démission des coachs. On a l'habitude, ça c'est un lieu commun, mais des dirigeants, des actionnaires, et que sais-je encore. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que lors d'un match de football, lors d'un championnat, il y a un classement, il y a un premier, il y a un dernier, et qu'on peut pas gagner sur commande, sous prétexte qu'il faille faire plaisir aux supporters, voilà, en l'occurrence aux deux journalistes qui nous sont opposés ce matin.
Si on commence à s'embarrasser avec des
mais dégageons les supporters,
Que
des droits télé, un bon silence dans un bon stade, au moins vous ne serez pas emmerdé comme ça.
Si on commence à s'attacher à des détails, quoi, comprenez ce que pensent les gens.
Est-ce que tu penses que c'est un détail que de voir son visage placardé tous les jours, de voir que sur les réseaux sociaux vous vous faites défoncer, sous prétexte que l'équipe n'a pas tourné. Vous trouvez que c'est un détail?
Simon,
pas un détail, bien au contraire.
Écoute, effectivement, les abus, il faut les punir, Pascal, et il faut savoir. Il y a une question de mesure, mais bon, demander aux gens de payer, de chanter, d'encourager et de la fermer. Je suis désolé, c'est
Simon, si tu vas au cinéma, si le film que tu vas voir au cinéma, il te déçoit, tu fracasses le ciné pour autant?
Tu cherches le metteur en scène, tu cherches le producteur. T'as le droit de dire que tu t'es fait voler 10 balles par le.
T'es pas obligé d'aller au stade et t'es pas obligé d'être supporter.
Mais attendez, mais monsieur,
tu restes chez toi ou tu supportes
pas. Mais on va pas refaire le monde, vous le savez très bien. Il y a énormément de gens pour qui.
Pour qui son équipe. Quand tu supportes dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et le vrai supporter se distingue dans les vrais. Dans les moments les plus difficiles, le bon chien, la réalité a évolué un petit peu aujourd'hui, malheureusement, supporter quand ça va bien, ça sert à rien,
aujourd'hui l'évolution de la société fait que tout le monde a son mot à dire et tout le monde a envie de
l'évolution n'est pas terrible,
mais je suis d'accord avec toi que ces abus sont insupportables aujourd'hui, que tu insultes, que tu dégrades, que tu menaces parce qu'il y a un mauvais résultat, ça me rend hors de moi. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pas du tout, parce que je pense que les clubs ont aussi des comptes à rendre. Quand tu rates un recrutement, eh ben tu fais amende honorable, tu vas t'excuser auprès des trucs, tu envoies tes...
Tu peux pas aller t'excuser auprès des supporters sous prétexte que t'as raté le recrutement. Ils en connaissent pas les tenants et les aboutissants.
Saluer le public qui est là, parce que vous vivez dans le grand monde, évidemment, non, vous avez des salaires, mais les mecs qui vont
je regrette de pas venir à Paris, je regrette de pas être sur le plateau.
Si tu y vas, c'est pour soutenir, c'est pour supporter, ça supporte.
Mais non, c'est un
supporter, ça supporte.
Et ça l'affaire. Il s'accapare le club,
c'est ça que vous dites.
Attention. Arrêtez.
Un supporter, il s'accapare le club, il a le cœur au fond du cœur, le club au fond du cœur. Il fait des sacrifices pour payer sa place. T'as vu combien ça coûte aujourd'hui les places dans les grands clubs? Si t'es pas content, tu dégages. Non, je suis désolé. Il y a des devoirs des deux côtés et je pense que les clubs ont des comptes à rendre à leurs supporters.
Okay. Christophe, Pascal Duprat.
Je fais une distinction. À Lille, les supporters sont mécontents du match, de la production de l'équipe contre Reims. Les supporters sifflent. Je suis pas d'accord avec le coach. Il doit pas commenter le fait que les supporters ont sifflé. Ils ont le droit de s'exprimer. Oui, ils ont le droit d'envoyer les banderoles, ils ont le droit de tout ce que tu veux. Mais à partir du moment où ça déborde, à partir ne serait-ce que du moment où on vous demande de venir vous expliquer derrière les tribunes, face au COP, comme si vous étiez digne d'un tribunal d'une république bananière, il faut aller devant les tribunes et commenter la production ou la non-production de l'équipe, ça déjà, ils dépassent leur droit. Ils n'ont pas le droit de le faire, on ne devrait pas y aller. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, quand les clubs subissent des amendes, des interdictions de stade, alors que vous êtes censé être encouragé par vos supporters pour vous aider à vous dépasser et à gagner, voilà pas que les supporters, ils sont une fois sur deux avec les tribunes vides, suspendues, sanctionnées, et par là même, le club sanctionne. Donc en fait, ils se font harakiri. Donc là, il faut, à mon avis, éduquer les supporters. Parce que c'est une frange, petite frange des supporters.
Il faut éduquer la société, Pascal. Okay. Tu t'attaques à un gros
problème. Mais ce microcosme que représentent les supporters, le supporterisme doit être éduqué.
C'est pas que les supporters. Regarde dans la société aujourd'hui, regarde les réseaux sociaux, ce que ça suscite comme haine. Aujourd'hui, tu dis un truc, tu te fais insulter.
Toi, tu es d'accord avec ça. Christophe Cessieux, toi, que je respecte au plus haut point, tellement tu représentes le journaliste par excellence et le sport, et toi t'es en train d'être d'accord avec ça.
Mais non, je te dis que je suis pas d'accord avec ça.
Viens vers nous.
Êtes à l'extrême, vous êtes à l'extrême. Vous nous dites les supporters,
c'est là pour supporter.
Pour supporter, fermez sa gueule. Je suis pas d'accord.
Simon Dutin,
désolé, il y a un juste milieu entre les deux trucs.
Pascal parlait de république bananière. On vit dans un pays où la liberté d'expression existe. Cette liberté d'expression, elle est encadrée et les abus, ils sont sanctionnés. Donc on en revient à l'application de la règle de droit. T'as quand même le droit d'exprimer ton mécontentement. Christophe le disait, je suis désolé.
Tu t'es jamais fait courser par des supporters dans la rue, ou peut-être que t'avais balancé une information qui n'était pas super.
Non, mais c'est plutôt des fans.
Ça t'est jamais arrivé. T'as jamais vu ta famille se faire critiquer par des...
Je suis pas en train de légitimer les menaces de violence. Et évidemment, elles sont scandaleuses. Mais effectivement, tu punis les abus. Mais va expliquer. Regarde, en Argentine, il y a beaucoup de corrélations entre justement les fonctions de représentation sportive et les fonctions politiques. Il y a des présidents argentins qui ont longtemps été présidents de Boca Juniors, par exemple. Je pense à Macri, là, récemment. Va leur dire que t'as pas de compte à rendre aux supporters qui, encore une fois, sont des gens qui, dans leur horizon culturel, affectif, parfois intellectuel, n'ont pas grand chose d'autre que les résultats de leur équipe ou de leur champion préféré.
Que les supporters manifestent leur mécontentement lors des matchs, qu'ils sifflent.
Il y a des gens pour qui une défaite ou une victoire.
Déploient des banderoles, ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Et ça participe au décorum et au spectacle que doit être le sport.
Pascal, okay. toi
mais à partir du moment où ils insultent, à partir du moment ils nuisent à la bonne marche d'un club, à partir de ce moment-là,
On te sent touché, toi, Pascal. Route. Tu as vécu ces moments-là à Saint-Etienne. Raconte-nous comment tu as vécu cette période-là.
C'est exceptionnel. Les supporters à la S Saint-Etienne, c'est exceptionnel. Regardez encore aujourd'hui, je crois qu'ils sont derniers en Ligue 2. Il y a quand même 20 000 personnes qui sont au stade et qui les encouragent. C'est exceptionnel. Mais vous avez une frange de 30, 40 personnes qui font régner la terreur.
Eh ben, tu les fous
dehors. Qui font en sorte que quand vous battez pour essayer de maintenir un club, vous présentez à trois matchs de la fin du championnat devant des tribunes vides parce qu'ils n'ont pas respecté les réglementations quant aux fumigènes, déployés ou pas. Mais vous pensez que ils marchent avec leur club? Vous me dites qu'ils ont ils ont le club chevillé au corps, mais ils le trucident en faisant ça.
Pascal, toi, est-ce que tu as eu la sensation parfois de devoir aller te justifier devant les supporters, de devoir rendre des comptes parce qu'ils payent leur place, ils supportent leur équipe?
Ça m'est arrivé parce que voilà, dans les clubs dans lesquels j'étais, il était d'usage de faire des réunions avec les supporters avant saison, en cours de saison. Bon, à partir du moment où tout ceci se passe bien, ça se passe souvent généralement très bien avec les représentants de ces groupes de supporters. Mais c'est ensuite où, parce que malheureusement, depuis que le monde est monde, depuis que le sport est sport, depuis que la compétition existe entre sportifs, il y a un gagnant et un perdant. C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi que nos supporters soient éduqués. On peut pas gagner tout le temps. À la fin de cette saison, au football, pour ce qui est du championnat de Ligue 1, il y aura un classement, il y aura un premier, mais il y aura aussi un dernier. Il faut savoir l'accepter.
Mais on peut pas perdre tout le temps non plus, tu comprends, quand tes supporters perdent tout le
jusqu'à
temps.
Jusqu'à preuve du contraire, le supporter de Lille, de Paris ou de Clermont en rugby.
Ouais, ouais.
Non, mais jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas eu l'habitude de perdre, non?
Oui, c'est ça.
À Clermont.
Non, mais c'est, alors là, pour le cas de Clermont, moi, je suis tombé sur les fesses parce que c'était réputé comme étant le meilleur public de France. Ils ont toujours accompagné leurs joueurs. C'était la fête quand tu avais la Yellow Army qui débarquait. Et
là, ils ont perdu tout le monde. Là, ils perdent Penaud, Lopez. Enfin,
tu comprends qu'ils soient un peu énervés. Mais effectivement, il faut raison garder et pas insulter partout et menacer les gens.
Je voudrais revenir.
Jean-Christophe. Oui. Christophe vient vers nous, hein. Tu vois qu'il vient avec nous. Il est avec Marc et moi. Hein.
Je suis centriste, voilà. Moi, sur ce cas-là.
Marc, alors c'est différent pour Pascal et du foot, parce que non pas il y a moins d'attente, mais il n'y a pas ce côté phénomène de stade, de supporters. Mais toi, tu dois rendre des comptes évidemment à tes supérieurs, de la Groupama FDJ, aux sponsors. Mais est-ce que tu as la sensation aussi, parce que tu es une équipe française, quand tu vas sur le tour, tu dois aussi rendre des comptes au public français, parce que tu as des coureurs qui sont là et peuvent gagner. Évidemment, on pense tout de suite à Thibaut Pinot, mais quand ça marche pas, t'es en première ligne parce que nous, on veut un Français qui gagne.
Alors, je pense qu'on est quand même dans une approche totalement différente du foot.
Il paye pas le supporter de vélo.
Il paye pas et il a pas la même appréhension du cyclisme comme on peut avoir une appréhension du football. Le supporter en vélo, il supporte son coureur, il est déçu avec son coureur quand il est battu, mais il est toujours derrière son coureur.
Est-ce et les coureurs, ils viennent de différentes régions.
Oui,
différentes
et puis
villes.
Également, il y a également un autre phénomène, c'est que c'est pas du 1 contre 1, c'est 180 bonhommes dans le même peloton qui vont s'expliquer pour aller chercher un résultat. Et alors, on gagne parfois, on est placé de temps en temps et on est dans les etc. autrement. Mais ce qui compte, c'est l'image et le sentiment que va dégager le coureur par rapport à ses couleurs et à ses supporters. On ne demande pas systématiquement la victoire, on demande d'honorer le maillot. Et honorer le maillot, on peut le faire de différentes façons. Et le supporter cycliste est totalement ou souvent différent de ce que peut être le supporter du foot. Il n'a pas la même approche, déjà par le fait qu'il n'y a pas de billet à payer pour entrer. Tu es sur le bord de la route, tu soutiens, tu supportes un coureur. Pour peu que le coureur soit poli et respectueux, tu supportes le coureur. S'il a un beau maillot, tu as encore un peu plus envie de le supporter.
Ouais. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, Marc.
Pas toujours.
Rappelle-toi les débuts héroïques du Tour de France où les mecs jetaient des clous parce que ça se courait en équipe nationale et les coureurs italiens, par exemple, se faisaient bastonner à la sortie des montagnes.
Mais l'approche de la compétition, on était à quelle époque là?
Début du Tour, je te dis, les temps héroïques. 1900,
bien sûr. Il y a encore un peu de place pour un argument
rapidement, Pascal.
Moi, j'aimerais juste donner un argument. Puisque les supporters veulent, intégrer, partie intégrante dans la vie d'un club, dans sa structuration, dans son recrutement, pourquoi ne pas adopter le principe du socio? Voilà. Pourquoi n'y aurait-il pas un club, le premier en France, un club qui, tout d'un coup, décide d'ouvrir le capital à ses supporters? Et à ce moment-là, ça deviendrait légitime de parler quand tu mets ton blé.
Ouais. Ah ouais.
Ok, les copains.
Faire le tour.
Je crois que là,
cet argument, il peut être retourné parce que tu mets ton blé, justement, le peu de blé, comme tu dis
si
que
tu mets des
que
soirées,
quand,
les mecs
quand t'es au RSA ou quand t'es smicard, quand tu le mets dans un abonnement pour toi et ton gamin et que toutes les semaines tu te fais cirer, que tu vois rien sur le terrain et que on t'a promis mon émerveil, c'est aussi une façon de mettre ton blé dans ton club. Ils sont bien contents de
prendre les recettes. Puisque tu peux participer au fait d'améliorer l'ordinaire de ton club.
Tous les clubs s'appuient sur le prix des places, les recettes à la buvette. C'est aussi une façon de mettre son blé dans le club, quoi.
Ok, très bien, les copains. On va terminer ce bras de fer. Vous avez été très bon, Pascal Duprat, offensif, et il a essayé avec Marc Madiot de vous convaincre et de retourner la tendance. Et à ma grande surprise, on est parti avec 75% oui, les clubs ont des comptes à rendre à leurs supporters, contre 25%. Je pensais vraiment que vous êtes vraiment bien battu, je pensais vraiment que vous alliez gagner des pourcentages et vous en avez un peu perdu, malheureusement. 76-24. Voilà.
Non, mais on reprend.
Ils font pas le poids, ils sont bons sur le terrain.
Bravo en tout cas pour ce bras de fer.
Bravo messieurs, vous avez été. Bravo, bon match.
Sorry, good games, comme disaient les Anglais.
C'était mieux avant dans quelques temps.
Ayez la victoire modeste, s'il vous plaît, Christophe. Merci.
Le bobo nostalgique de Christophe Cessieux. On va parler du Vendée Globe 96 avec des histoires tragiques et magnifiques. C'est Vendée Globe, évidemment, et c'est dans quelques instants dans votre C'était mieux avant. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
11h29, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, Marc Madiot, Simon Dutin, Christophe Cessieux ce matin. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer les auditeurs. Beaucoup de débats ce matin dans les GG du sport, vous n'êtes pas d'accord, vous venez le dire face à face au 32-16 avec une GG. Tout de suite, votre moment d'histoire.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avant-français ressortent le grand jeu, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Christophe Cessieux pour son C'était mieux avant et nous allons parler du Vendée Globe 96.
En cette veille de Noël 1996, la France grelotte. Depuis 3 jours, le pays subit de grosses chutes de neige qui bloquent les routes, isolent les populations et gênent les préparatifs du réveillon. Mais dans son PC parisien, Philippe Janton, le patron du Vendée Globe, dont on dispute la 3e édition, n'a que faire des flocons qui envahissent les trottoirs de la capitale. Non, le patron de cette course de l'extrême autour du monde, sans escale et sans assistance, a d'autres soucis météo en tête. Un puissant cyclone s'approche de la flotte de la course.
C'est un cyclone Ophelia sur l'Australie et qui perturbe tout le système météo du sud.
Et le sud dont parle Janton n'a rien à voir évidemment avec la Côte d'Azur ni la Provence, non. Son sud à lui, c'est celui des 40e rugissants et des 50e hurlants. Ces latitudes extrêmes qui bordent l'Antarctique et par lesquelles les marins du Vendée doivent passer pour réaliser leur tour du monde. Une zone de désolation, hostile, où les dépressions succèdent aux tempêtes et où les vagues ressemblent à des immeubles de 6 étages.
Il n'y a aucune terre pour casser les vagues, puisque les vagues font le tour du monde avec les dépressions. Et ça donne des mers gigantesques, comme on ne peut pas voir dans l'océan Atlantique ou dans l'océan Pacifique Nord, parce que là, eh bien, il y a un océan et puis les vagues sont cassées, parce qu'il y a un continent. Dans l'hémisphère sud, il n'y a pas de terre qui arrête les vagues.
Parti des Sables d'Olonne, 50 jours plus tôt, les marins du Vendée ont déjà atteint ces hautes latitudes et se préparent à réveillonner dans la fureur. Parmi eux, Raphaël Dinelli. Le jeune skipper se trouve dans le peloton de queue d'une course dont il n'est pas officiellement concurrent, n'ayant pas réussi à se qualifier. Qu'à cela ne tienne, celui que l'on surnomme le pirate a décidé malgré tout de prendre le départ à bord de son monocoque. Mais le 25 décembre au matin, pris dans la tempête, celui-ci se retourne comme une crêpe.
C'était blanc, 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 blanc. C'est ça que j'appelle un paysage. C'est vraiment, c'est mis en travers. Et il va tout simplement retourner comme un accident de voiture, en fait. Comme quand une voiture fait un tonneau sur la route. Le choc était tellement violent que le mât s'est cassé et le mât est rentré à l'intérieur de la coque. Et donc, j'avais le mât qui pilonnait à l'intérieur le bateau dans la soute avant, là où je mets les voiles.
Les dégâts sont considérables. Le bateau prend l'eau de toutes parts et commence à couler. Dinelli déclenche alors sa balise de détresse, puis, trois heures plus tard, gagne le pont de son voilier qui s'est miraculeusement remis à l'endroit. Là, il s'arrime comme il le peut au pied de mât et va vivre 36 heures d'angoisse ballotté par les déferlantes d'un océan glacial. Il n'a que deux choses à faire. Attendre un hypothétique, très hypothétique sauvetage et espérer que le bateau ne coule pas trop vite.
Je suis au bout du monde, dans le plein océan Indien, pas d'hélicoptère, pas d'avion, pas de bateau, etc. Et de passer dans l'état, comment faire pour survivre? Alors là, dans ça, j'ai eu un moment psychologique très difficile.
À l'autre bout du monde, dans son PC parisien, Philippe Gentot déclenche les secours.
J'ai regardé quels étaient les bateaux autour de lui qui étaient dans la meilleure position pour lui porter assistance. Et le seul que j'ai pu joindre, c'était Pete Goss, qui était un petit peu en avance. Et je lui ai dit, Rafa Dinelli est en détresse, voilà sa position, peux-tu aller le chercher?
Et Pete Goss, malgré la tempête, va respecter à la lettre le serment maritime qui veut qu'un marin se doit de tout faire pour essayer de sauver un camarade en détresse.
Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. J'ai noté la position pour me rendre compte que c'était un compagnon de course, Raphaël Dinelli, qui se trouvait dans le pétrin à quelques 260 km de là. Et pour couronner le tout, il était pris dans des vents qui avaient l'intensité d'un ouragan. Le vent soufflait tellement fort qu'il arrachait l'eau de la surface de la mer. Et là, je me suis dit, comment imaginer sauver Raphaël dans de telles conditions?
Face au vent et aux vagues qui dépassent les 12 mètres de haut, Goss entame sa recherche à contre-courant, pendant qu'un avion de la marine australienne repère Dinelli dans une botte de vagues et lui largue un canot de survie. Celui-ci parvient à se hisser à bord avant de voir en une poignée de secondes son beau voilier rejoindre le fond de l'océan Indien. Quelques heures plus tard, Goss parvient enfin à localiser son camarade et lui sauve la vie.
Je me suis penché et j'ai agrippé à pleine main sa combinaison de survie. J'ai accroché une lanière à son harnais. Le moment était magique. Je le tenais enfin. Ça a été un moment plein d'émotions. Je n'oublierai jamais ses yeux. Tout ce que l'on distinguait vraiment de Raphaël, c'était ses yeux dans sa combinaison de survie. Et je voyais la profondeur de son émotion et toute sa gratitude. On peut lire dans l'âme de quelqu'un dans de telles circonstances.
Au PC course, c'est l'euphorie. Dinelli est sauvé, au chaud dans le bateau de Goss, qui prend alors la direction de la Tasmanie, où il débarquera son compagnon 2 jours plus tard. Les aux belles histoires de Noël vont bientôt succéder d'autres pages dramatiques. En cet été austral, les tempêtes ont décidé de mener la vie rude aux bateaux et skippers. Le 5 janvier, deux dépressions se creusent simultanément dans l'Indien et le Pacifique. Le baromètre d'Isabelle Autissier va soudainement s'affoler.
On reçoit une prévision de 35 nœuds. Donc, vraiment pas plus inquiet que ça, quoi. Quand même, moi, je vais avoir la puce à l'oreille. C'est en regardant le baromètre, qui quand même se casse la figure en l'espace de quelques heures, à passer de effectivement 30 nœuds à 60. Et puis ça va continuer à monter. Moi, c'est la tempête la plus forte que j'ai jamais vécue. Moi, j'ai enregistré 87 nœuds avant que la girouette s'envole. Donc, il y a peut-être eu plus, j'en sais rien. Mais 87 nœuds, c'est ouragan, quoi. Moi, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vraiment eu le sentiment qu'il n'y avait plus rien à faire.
À l'arrière de la flotte, c'est la panique. Thierry Dubois et Tony Bullimore, séparés d'à peine quelques milles, sentent le mauvais coup arriver.
L'état de la mer, on ne l'avait pas prévu. On ne sait toujours pas pourquoi elle était aussi énorme que ça. Hauteur moyenne mesurée 12 à 13 mètres. Donc les spécialistes vont dire que oui, ça génère des vagues de plus de 20 mètres. Donc oui, je voyais bien qu'elles étaient grosses.
Au loin, j'ai remarqué une ligne noire qui s'étirait sur des kilomètres et des kilomètres. C'était vraiment le signe annonciateur du gonflement de la mer. Cette ligne noire à l'horizon me disait que quelque chose se dirigeait vers moi.
Quelques heures plus tard, les balises des deux navigateurs s'allument coup sur coup. À terre, l'inquiétude gagne les familles et le 20h de France 2 ouvre sur le double naufrage.
Madame, monsieur, bonsoir. C'est toujours l'inquiétude à propos des deux navigateurs de la course à la voile, le Vendée Globe, dont les bateaux ont chaviré au milieu d'une violente tempête dans l'océan Indien au large de l'Australie. Pour l'heure, les deux embarcations ont été repérées par l'aviation australienne. Le concurrent français Thierry Dubois a même réussi à prendre place dans une embarcation de survie larguée de l'avion de recherche. En revanche, aucune trace de vie sur ou autour du bateau du Britannique Tony Bullimore.
Le bateau retourné de Bullimore ne donne aucun signe de vie. Le navigateur britannique est-il réfugié à l'intérieur de la coque? Pour l'heure, rien ne l'indique.
Quant à Thierry Dubois, s'il a pu se hisser à bord d'un canot largué par l'avion australien, il va connaître un nouveau coup dur.
Je me fais prendre dans une déferlante et terminé. Radeau explosé. J'ai passé plus d'une heure dans l'eau, sans radeau, sans bateau. Quand tu fais de la natation là, statistiquement, tu ne dois pas t'en sortir. Il faut être réaliste. T'es au milieu de l'océan et t'es à la nage. Enfin, j'avais rien. J'avais encore ma balise de détresse avec moi, mais ça faisait une belle jambe.
Mais par miracle, un second avion passe au-dessus du bois et nous largue un autre radeau. Il n'a désormais plus qu'à attendre les secours. Une longue, très longue attente dans le froid et l'humidité.
Après, j'ai passé 3 jours dans le radeau de survie, à attendre qu'on vienne me chercher. Tu m'emberges, tu vides tes copes, t'éponges et t'essayes de pas trop froidir. S'il fait froid, et il neigeait juste avant le chavir. Et l'eau, elle est à 2-3 degrés.
3 jours plus tard, après 2500 km de navigation, la frégate australienne Adélaïde parvient enfin sur zone, embarque Dubois à son bord avant de se diriger vers la coque retournée d'Exit Challenger, le bateau de Bullimore toujours silencieux. Et là, un énième miracle se produit lorsqu'une tête surgit des flots.
J'ai entendu une voix venant de l'extérieur et là j'ai commencé à crier « J'arrive, j'arrive, j'arrive ». Ça m'a pris quelques secondes pour sortir du bateau. J'ai pris ma respiration, j'ai plongé et alors, quand j'ai vu le Zodiac qui était là, avec l'avion au-dessus et ces types qui me regardaient, c'était le paradis. Vraiment le paradis. C'était un miracle absolu. La vie vous semble extraordinaire dans ces moments-là. J'ai l'impression de renaître une deuxième fois.
Mais le temps des miracles va soudainement prendre fin. Un océan plus loin, une énième tempête se déchaîne et secoue d'autres marins, parmi eux le Canadien Jerry Roof, dont le bateau se trouve à quelques milles seulement de celui d'Isabelle Autissier. Les deux marins, compagnons d'infortune, communiquent leur angoisse par mail.
Isa, c'est Jerry. Ralenti par mer énorme. Il y en a marre de cet endroit. Le vent ne mollit pas pour 2 miettes et la mer se forme encore plus. Les vagues, c'est plus des vagues, c'est les Alpes. Sauf que le blanc en haut, c'est pas de la neige. Je viens de faire un chavirage monstre. Le bateau reste couché. Le vent, c'est l'enfer. Je ne sais pas ma position. À toi.
Puis soudain, le silence. Jerry ne répond plus. Sa balise Argos a cessé d'émettre.
Après Ginelli, Dubois et Bullimore, c'est Jerry Roof qui inquiète. Sans nouvelles de lui depuis 4 jours, le PC Course a décidé d'envoyer les secours, même si le skipper canadien n'a déclenché aucune balise de détresse.
On a donc demandé à Isabelle Autissier de faire demi-tour et de venir rechercher dans la zone où était Jerry Roof. Elle commençait à sillonner la zone, mais c'est vrai que c'était une zone énorme.
Pendant 2 jours, j'essaye de revenir en voyant qu'il y a toujours du vent quand même assez fort, qu'il y a de la brume, que moi je vois un 1000 carrés autour de moi, donc j'ai zéro chance de le trouver. Et puis au bout de 2 jours et demi, ils me disent maintenant repartez dans le bon sens.
Vous pouvez reprendre votre route. Et encore merci pour tout.
Et Isabelle Autissier nous a envoyé un message pour nous dire « Je ne peux plus tenir la position, je suis obligé de repartir. »
Quelques jours plus tard, les derniers espoirs s'envolent lorsque l'arrêt officiel des opérations de recherche est annoncé.
Jerry ne reviendra pas et c'est le grand drame de ce Vendée Globe. Philippe Gentot a dû abdiquer. Jerry Roof a officiellement disparu en mer, englouti par le Grand Sud.
Plusieurs mois plus tard, des pêcheurs chiliens retrouveront sur une île déserte baptisée Atalaya l'épave de groupe LG2, mais sans âme qui vive à bord. Non, cette fois-ci, point de miracle, le Pacifique, mangeur de tant de marins, pêcheurs et autres coureurs des mers, a pris sa revanche et envoyé un message au monde des terriens. Pourtant, depuis cette tragique disparition, tous les 4 ans, les successeurs des Roof, Bullimore et autres Dubois continuent de venir défier les mers du Sud. Une sorte de roulette russe engagée avec la nature, mais aussi un ultime refuge pour les aventuriers de tous bords qui connaissent les règles du jeu, celles des vagues gigantesques et des tempêtes homériques. Oui, mais pour rien au monde, il ne leur viendrait à l'idée de renoncer à ce duel glaçant et glacial avec l'océan.
Christophe Cessieux pour cette histoire, ces histoires sur le Vendée Globe 1996. Mais GG, qu'avez-vous envie de retenir à l'écoute de ce récit, Marc ?
Ça fout les jetons. C'est impressionnant. Tout à l'heure, on évoquait le fait que les jeunes s'intéressent à un sport ou à un autre. On faisait la comparaison entre le foot et le vélo, mais là c'est encore autre chose. Moi, j'ai rencontré une fois Jean Thau. C'est un des. Et j'ai parlé, 30-40 secondes ou une minute avec lui. Et c'est une des personnes qui m'a le plus impressionné dans ma vie.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ne sont pas faits comme nous. Simplement. Jean Thau, il n'est pas fait comme nous.
Simon Dutin.
C'est des histoires qui ont contribué évidemment à rendre le Vendée Globe mythique. Il y a quand même un mysticisme autour de ces mecs et ces femmes qui partent autour du monde tout seul sur un bateau. Il faut avoir fait un peu de voile dans des conditions difficiles pour se rendre compte à quel point tu peux être saisi par... moi c'est en bateau, pour mon expérience personnelle, une nuit au large de Fos-sur-Mer que j'ai fait la différence entre la peur et la terreur. Et une nuit, sur un bateau, j'ai expérimenté la terreur. Et je me suis vu y passer. Et à ce titre-là, ce que ces marins d'exception font est absolument extraordinaire. Parce que tu t'imagines tout seul dans le Pacifique Sud, Pacifique, hein, nommé comme tel par Magellan, tu sais, qui avait dit « Hop, c'est plutôt calme ici », d'où le nom de l'océan Pacifique, qui en fait engloutit effectivement beaucoup de marins. C'est absolument terrifiant. Pourquoi partir? Comment revenir? C'est comme ça, moi, que je résume un peu la philosophie de ces hommes et ces femmes. Et effectivement, nous, on est là, à terre, on suit ça. Il n'y avait pas encore tout à fait les balises Internet, tu sais, on pouvait pas suivre tous les équipages. Donc on était pendu au communiqué.
Il y avait une liaison qui était très mauvaise techniquement. On avait l'impression qu'ils étaient très loin, alors qu'aujourd'hui on a l'impression qu'ils sont dans le centre d'à côté.
Et effectivement, la voix de Jean Thau est devenue un peu mythique. Tu le revois avec sa moustache là, nous donner les derniers bulletins et bon, l'histoire de Jerry Ouf, elle est absolument effectivement dramatique, mais ça fait partie. Je pense que c'est comme les alpinistes, tu sais, qui partent et qui savent que bon, il y a quand même de fortes chances pour que tant qu'ils continuent, ils se mettent en danger de mort, et c'est ça qui rend leurs exploits encore plus admirables.
Pascal Duprat.
Non, mais ça prouve déjà que Christophe est meilleur compteur, bien meilleur compteur
que débatteur
au bras de fer. Voilà, parce que encore une fois, Christophe, c'est juste incroyable cette capacité à nous captiver. Non, et c'est la différence entre l'homme, on va dire, normal et ces surhommes ou surfemmes, je sais pas comment les appeler, mais ils ont un cran, une bravoure exceptionnelle. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui la sécurité s'est améliorée, parce qu'on peut mieux les situer grâce aux moyens technologiques, mais il faut quand même avoir un sacré cran pour être seul en mer là, comme ça. C'est vraiment des personnes passionnées, voilà, passionnées par leur sport, passionnées par les mers, et qui doivent certainement se sentir bien mieux que nous quand ils sont seuls face à ces éléments naturels.
Évidemment, tous les 7 émus avant sont à retrouver en podcast sur rmcsport.fr, sur les différentes applications et notamment sur l'application RMC. Merci beaucoup Christophe. Je m'empresse de te demander, la semaine prochaine nous serons en direct de l'Alpe d'Huez au RMC Sport Game, donc il n'y aura pas de 7 émus avant, mais dans deux semaines ça va devenir une entreprise Netflix,
un petit feuilleton en deux épisodes. Je vais vous raconter l'histoire du plus grand tricheur de l'histoire du sport, un certain Lance Armstrong, puisque dans quelques jours on sera 10 ans après ses aveux, vous rappelez de ses aveux à Oprah Winfrey, à la télévision américaine. Et Lance Armstrong, qui a été le mec sans doute qui a fait rêver des générations, notamment tous ceux qui étaient malades et pour lesquels il s'est battu, puisqu'on rappelle qu'il avait été victime du cancer. Son histoire était fabuleuse et son histoire s'est terminée comme la plus grande tricherie. Marc a bien connu le personnage puisqu'il était dans le peloton déjà à l'époque. Et on va vous raconter toute cette histoire.
Et voilà, il n'y aura pas un épisode,
il y en aura deux
épisodes.
Voilà. Deux pour plus d'un, incroyable.
À mon avis, dans un an, dans deux ans, si on continue, il y aura 7 épisodes, ça va être absolument incroyable. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie. C'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord, vous composez le 32-16, pas d'accord avec une GG, vous venez lui dire. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
Le direct studio, Eric, qui me dit exceptionnel récit de Christophe Cessieux il y a quelques instants sur ce Vendée Globe 96. Je sais que vous adorez cette séquence et vous avez bien raison. C'est disponible en podcast. Il est 11h49. On est de retour dans les grandes gueules du sport avec les GG ce matin. Marc Madiot, Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Simon Dutin, dans 10 minutes maintenant, les paris RMC autour des 32e de finale de la Coupe de France. On vous donnera les meilleures cotes, évidemment, si vous avez envie de jouer avec la Dream Team des paris. Mais tout de suite, les auditeurs, c'est à vous de jouer.
RMC. Les grandes gueules du sport et vous.
Lionel nous appelle au 32-16. Bonjour Lionel.
Bonjour messieurs.
Alors Lionel, déjà bonne année, on a le droit encore de se le souhaiter le 8 janvier. Merci de ta fidélité. Tu voulais affronter qui là ce matin ?
Personne en particulier, ou tout du moins France 23, l'ACD.
Ok, à propos de ce soupçon de trafic de place, c'est ça autour de la Coupe du Monde ?
Alors, oui, mais je ne me mouillerai pas là-dessus. En fait, ce qui se passe, pour vous expliquer, j'ai ma fille qui est dans un collège à Marseille et sa prof de musique a répondu à un appel à projet de France 23 pour que les gamins aillent chanter les hymnes pour les matchs de la Coupe du Monde de rugby.
Ok.
Elle a été reçue. Et c'est un projet magnifique puisqu'ils vont chanter, ils sont 180 gamins sur scène avec les chœurs de l'Opéra de Marseille. Et ils vont chanter sur deux matchs, de mémoire le 8 et le 16, je crois. C'est pour Angleterre-Argentine, d'abord, et après pour un quart de finale, et là on ne sait pas pour qui. Ils ont toutes les hymnes à apprendre, puisqu'ils ne savent pas pour qui ils vont chanter. Ils n'ont aucune aide de France 23, aucune. Et nous, parents, on n'a pas la possibilité d'avoir des places de rugby. Je ne dis pas qu'on nous les offre, pas du tout, ce n'est pas mon discours. Mais eux ne nous en proposent pas à l'achat. Et dans les points de vente, il n'y en a plus. Et maintenant, j'entends qu'elles vont se revendre 1500 euros. Donc moi, j'ai ma fille qui va aller chanter au Vélodrome les hymnes pour une Coupe du Monde de rugby. Et je vais aller la laisser à 5h ou 6h de l'après-midi devant le stade et retourner la chercher à minuit.
Les GG, comment vous réagissez à ces propos? C'est du concret. On parlait souvent des supporters qui ont passé de longues heures pour tenter d'avoir des places. Et évidemment, c'était extrêmement compliqué pour eux. Et dans le même temps, on apprend, notamment par Le Parisien hier, que Sébastien Chabal, en tant qu'ambassadeur, a demandé 100 places, qu'il a payé. Il les a eu, ces 100 places. Il va les redonner aux copains. En tout cas, c'est sa ligne de défense. Et donc, ça laisse peut-être d'autres amateurs du rugby, et notamment Lionel qui nous appelle, sur le carreau. Comment vous réagissez? Ben avant de réagir, on va réécouter quand même la ligne de défense de Sébastien Chabal, c'était hier sur Canal+.
J'ai demandé au comité d'organisation si je pouvais acheter une centaine de places pour les redonner à ma famille, mes amis, mes proches, mon entourage. L'organisation avait dû me chercher en 2017 pour représenter France 2023. On m'a même proposé de l'argent pour être ambassadeur. J'ai refusé. Oui, je comprends que les gens soient frustrés et peut-être en colère, mais je pense que c'est pas très grave en tout cas.
Ok, vous réagissez comment au propos de Lionel? Christophe?
Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est pour le commun des mortels, pour les passionnés de rugby, pour qui c'est très compliqué d'obtenir des places. Et puis tu sais même pas sur quel match tu vas tomber. Et là, en plus, bah ils font des efforts, les gamins qui viennent chanter. Bah les parents aimeraient être là pour les voir, et tu peux pas obtenir ces places parce que il y a quelques happy few qui se partagent le gâteau, quoi.
C'est au-delà des places. C'est au-delà des places. Déjà nous, parents, on est bloqués. On ne peut même pas aller voir ce moment magique que peu d'enfants ont la chance de vivre. Et on a la chance d'avoir nos enfants qui vont le vivre. On ne pourra pas. Et sur les 1 an et demi de préparation, ils sont laissés seuls. Donc c'est... bon, moi je me suis un peu investi avec la prof de musique, mais c'est moi qui cherche avec la prof de musique des aides avec la mairie, qui nous suit très bien, attention, avec la mairie de Marseille, avec le rectorat, avec tous ces gens-là. Du bénévolat au maximum de la part de l'Opéra, de tout ça. Et France 23, c'est silence radio. Même pas des tickets de bus pour qu'ils aillent répéter quelque part.
Simon.
Oui, bonjour Lionel. Moi, je partage tout à fait votre colère. C'est ahurissant parce que... je sais pas quel manque de classe, quoi. C'est pas idiot de sélectionner des gamins pour aller chanter et tout, mais il y a pas un pimpin dans le comité d'organisation qui s'est dit bon, et pour les parents, comment on se démerde, on les accrédite, on fait des billets, on fait un groupe. Enfin, ça paraît complètement voilà, ahurissant. Donc moi ça c'est pas, je, attention, hein, ne confondons pas tout, mais c'est je sais pas, c'est à moi, j'ai envie de croire, moi, que si vous, vous avez fait remonter le l'information, vous avez une réponse, personne va réagir, vous avez, il faut bien le faire savoir que les parents de ces enfants ne pourront même pas accéder au stade, c'est quand même pas normal.
Lionel, rapidement.
Ben je parle même pas d'accréditation. Je parle même de pouvoir les acheter.
Bien sûr, mais bon, je pense que la logique, le réflexe aurait été de juste de s'assurer que ce soit via une accréditation ou via la mise à disposition de places à l'achat, s'assurer que les parents peuvent accompagner leurs enfants.
Bon, on le sait, hein, ça fait forcément beaucoup de mécontents, et quand on connaît cette histoire en plus, quand on a son enfant qui a la chance d'aller dans le stade pour une représentation, c'est encore plus difficile à avaler, on l'imagine.
On merci Lionel d'avoir en relation avec Sébastien Chabal, je crois qu'il a quelques petites places à vendre, peut-être que Lionel peut se
oui, mais c'est pas le bon match. On ne sait pas. Ah. On n'a pas cette information. Bref. Il y a du direct, les copains. C'est du biathlon avec le relais mixte simple à Pokljuka avec Julien Richard. Salut, Julien.
Salut tout le monde. Format spectaculaire avec une fille et un garçon, un biathlète qui effectue chacun une boucle d'un kilomètre 500. Il y a quatre tirs à effectuer au total. Il passe deux fois sur la piste. Il y a un petit arrêt. Ça va très vite. Ça va très vite avec le premier relayeur français. C'est Antonin Guigona qui a donné le relais à Louge Jean Monod, donc la relayeuse côté équipe de France, en troisième position après donc le premier relais. Ils sont à 7 secondes de la Suisse qui pour l'instant est en tête devant la Norvège et la France.
Merci Julien Richard. C'est la fin de ces grandes gueules du sport. Il est 11h55. Merci à tous. Merci à vous les auditeurs de nous avoir suivis. Merci Christophe Cessieux. Marc Madio, merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
Exactement. Hein. Pascal Duprat, Simon
Dutin.
Oui, on sera en direct de l'Alpe d'Huez pour les RMC Sport Games.
Ça peut te mettre un petit peu dans le nez.
Et vous avez booké un cours pour JC, alors il y a un moniteur qui va s'occuper de lui.
Je ne vais pas y aller.
Ah, tu vas même pas skier. Ah ouais, non, on est dans le renoncement. Il va pas sortir de l'hôtel parce qu'en plus il risque de neiger.
Non, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème, mais c'est juste que voilà, le dernier petit accident de ski m'a vacciné. Voilà, on va pas y aller tout de suite. Voilà, on va rester.
Et au golf, tu continues ou non?
Ah bah ça, sans problème. Voilà.
Tu as jamais pris une balle dans l'œil.
De toute façon, à mon avis, à l'Alpe d'Huez, on peut aussi faire du golf, vu la neige qui tombe en ce moment.
Ouais.
Ok, les copains.
Bah, ils annoncent 5 jours de neige.
Oui, c'est ça.
Bah, oui.
On attend pas. Merci à Pierre Amiche à la production, Charlie Fina à la réalisation et Sébastien Chabal à la distribution, évidemment. 11h56, les paris RMC dans quelques instants. A tout de suite sur RMC, on vous embrasse. Salut.
Jusqu'à 13h, les paris RMC.